Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, Andrea Pirlo à la tête de la Juventus Turin. Le maestro a pris les rênes de l'équipe 9 fois championne d'Italie cet été, alors qu'il n'avait jamais encore entraîné. On se souvient de son sens de la passe, de ses coups francs millimétrés et de son toucher de balle. Entre autres, Andrea Pirlo a été l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, l'un des derniers créateurs, selon Michel Platini. Alors l'immense ancien joueur peut-il devenir un grand entraîneur? Pourquoi a-t-il été choisi par les dirigeants de la Juve? Quelle est sa vision du jeu et quel type de manager est-il en train de devenir? Avec moi aujourd'hui deux de nos confrères de France Football. Je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois Roberto Notariani. Bonjour Roberto.
Bonjour.
Bienvenue. En face de toi, il y a Thomas Simon, qui est presque l'un de nos habitués maintenant. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et puis nous sommes en ligne avec Mélisande Gomez, notre spécialiste de l'Italie ici à l'équipe. Bonjour Mélisande.
Bonjour.
Et voilà, les présentations sont faites. Vous avez le menu. Maintenant, on peut commencer. Andrea va devoir redescendre sur terre en tant qu'entraîneur car il ne peut pas attendre de ses joueurs qu'ils aient des yeux dans le dos comme lui en avait sur un terrain. Ces mots sont ceux de Giorgio Chiellini, ancien coéquipier d'Andrea Pirlo à la Juve et qui évolue désormais sous ses ordres. Le défenseur central a certainement raison. Pirlo a été un joueur hors norme, un maître à jouer, un chef d'orchestre, un meneur reculé, un numéro 10 devant la défense et il y a fait des merveilles. Champion du monde en 2006 avec l'Italie, deux Ligues des Champions avec l'AC Milan et quatre Scudetti avec la Juve, entre autres. Roberto, pour commencer, est-ce que Pirlo, le joueur, est unanimement reconnu et apprécié en Italie?
Oui, il est reconnu, en effet, on l'appelait le maestro, pour tout ce que tu as expliqué. Aussi pour son intelligence de jeu. Alors, ça n'a jamais été un joueur très rapide, mais il avait une rapidité, on va dire, de pensée extraordinaire. Il était capable de varier jeu court, jeu long, et en effet, surtout, il a fait quelque chose, pas de révolutionnaire, parce qu'en football, on n'invente rien, on ne fait que réadapter, c'est-à-dire de passer de 9,5 à régiste à devant la défense. Voilà. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi Andrea Pirlo, c'est aussi un miracle, parce qu'il faisait partie de cette génération de jeunes joueurs. Qui en fait était sacrifié dans les grands clubs. Et le miracle a eu lieu quand il est parti au Milan AC. Et là, il a été titularisé. Et puis là, ça a été un boulevard pour sa carrière avec le titre de champion du monde et tout le reste.
Alors, je rappelle qu'il a été nommé le 8 août dernier, juste après l'élimination de la Juve en 8e de finale de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais. C'est donc sa première expérience sur un banc. Il n'a jamais entraîné. Il venait tout juste de reprendre les U23 de la Juve. Mais Lisande, comment la nouvelle a été accueillie par les médias et l'opinion publique en Italie?
Comme une surprise quand même, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, il venait d'être nommé à la tête de l'équipe réserve. Il avait lui-même annoncé qu'il voulait aller étape par étape quand il a été présenté par André Agnelli à la tête de la Primavera de la Juve. Et du coup, bon, on savait qu'il était dans la maison de la Juve, que tôt ou tard, il arriverait probablement sur le banc de l'équipe première. C'était écrit, mais pas aussi vite que ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé. La situation avec Maurizio Sarri était devenue intenable en fin de saison. La décision avait été prise avant le match contre Lyon, probablement. Et il fallait une solution à moindre coût. Et Andrea Agnelli et Pirlo sont très proches. Hein. Ils sont amis. Ils se voient en dehors avec leurs épouses. Et voilà. Et je pense qu'Agnelli a pris le pari. Mais c'était quand même très surprenant. Et puis bon, alors il y a beaucoup d'enthousiasme parce que tout le monde. Il y a une affection, comme disait Roberto, Pirlo, c'est un joueur unanimement reconnu, c'est un champion du monde 2006, c'est une génération à laquelle les Italiens sont très attachés, puisqu'il ne s'est plus passé grand-chose derrière. C'est un peu comme nous avec les champions du monde 98, il y a quelque chose. Ce sont les champions d'une génération, les champions du monde 2006, puisque l'Italie n'avait pas été championne du monde depuis longtemps avant, et elle galère depuis. Et du coup, il y a un respect immense, c'est sans doute le meilleur joueur de cette génération-là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et voilà, le voir arriver sur un banc de touche, il y a une fascination. Et en même temps, on se dit, waouh, il n'a jamais entraîné personne, pas même des enfants, pas même une équipe réserve. Il n'a pas fait l'adjoint, il n'a pas travaillé dans un staff technique. Il a arrêté sa carrière il y a 3 ans en disant, en arrêtant, je ne veux pas entraîner, je ne deviendrai pas entraîneur. Et puis, ça a maturé comme ça dans son esprit. Mais il est jeté dans le grand bain. Très vite, et oui, c'était une surprise pour tout le monde.
Alors, il a 41 ans, Andrea Pirlo. Il est né dans la province de Brescia, en Lombardie. On le décrit souvent comme étant réservé, taiseux. Thomas, est-ce qu'il est vraiment comme ça ?
Alors, moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai vu jouer, jamais rencontré. Mais c'est vrai, les gens qui en parlent, qui le connaissent, le voient réservé, un visage la plupart du temps fermé. Andrea Pirlo, au mieux, on peut le voir sourire. Rigoler, se marrer, en tout cas devant des caméras ou devant des journalistes, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Mais visiblement, il était déjà comme ça, plus jeune.
Mais après ça, c'est une image publique hein, quand même, parce que Pirlo a la réputation d'être le plus gros chambreur de vestiaire de la génération des champions du monde 2006 et de celle du Milan d'Ancelotti. Hein. C'est vraiment les blagues potaches, c'est quelqu'un de très intelligent qui vient d'un milieu assez aisé, qui a une intelligence des autres et d'un vestiaire évidente, qui est extrêmement timide et réservé en tout cas d'apparence avec les médias, avec tout le monde extérieur, mais qui est le premier chambreur des vestiaires. Voilà, il est très ami avec Alessandro Nesta, qui était son grand ami à l'époque de sa carrière de joueur. Il est très lié avec Gattuso aussi. Et tout le monde vous raconte un Pirlo qui a des années-lumière du personnage qu'on a l'impression de connaître quand on le voit à la télé, effectivement, sur le terrain, aujourd'hui en conférence de presse, quand on l'interviewe. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. C'est vrai qu'il était toujours ce ton très posé. Mais il ne faut pas se fier. L'habit ne fait vraiment pas le moine en ce qui le concerne.
Roberto ?
Alors moi, j'ai un souvenir un peu contrasté parce que je l'ai interviewé à l'époque du Milan. C'est un peu un taiseux. Alors c'est vrai qu'après, dans le vestiaire, c'est un peu différent. Et puis il a cet avantage. D'ailleurs, les dirigeants de la Juve l'ont aussi pris en connaissance de cause. Il est copain de beaucoup de joueurs qui sont dans l'effectif, Buffon, etc. Et il y a une chose, il a un avantage énorme, c'est qu'il est considéré, que ce soit par Cristiano Ronaldo et toutes les stars de la Juve, comme un des leurs. Et ça, c'est très important et ça marque une grande différence avec Maurizio Sarri, son prédécesseur, qui a échoué au plan du jeu, mais qui, au départ, n'a pas fait l'unanimité au niveau du vestiaire.
La jeunesse de Pirlo, c'est un atout dans la relation avec son effectif aujourd'hui ?
Oui, et puis c'est vraiment le feeling. Bon, lui, il ne prend pas énormément de risques, dans le sens où il a un contrat de 2 ans, qui n'est pas très coûteux pour la Juve, et il ne sera pas viré en cours de championnat, parce que c'est un challenge d'André Agnelli, qui est son ami, comme Mélissandre le rappelait. Et donc, il ne sera pas jeté après quelques mauvais résultats. Donc, c'est un énorme défi, mais je pense que ça peut marcher parce qu'il a la complicité de l'effectif, de tous les joueurs. Et puis, c'est un effectif... Et
des joueurs dont certains ont été ses coéquipiers.
Oui, comme
Chiellini, Buffon et Bonucci aussi.
Les monstres sacrés du vestiaire. Il les a avec lui, ils sont à côté, ils sont derrière lui. Et il a aussi toute l'estime de la star principale de l'équipe, qui est Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas ou très peu de feeling avec Maurizio Sarri.
Alors, Ronaldo n'a jamais joué avec Pirlo, mais contre lui en Ligue des Champions. 3 affrontements et 3 victoires pour l'Italien. Mélisande, comment se dessine la relation entre les deux hommes ?
Bien, pour l'instant. C'est vrai que Pirlo, il a pour lui d'avoir cette carrière de joueur à peine terminée. Et du coup, une aura incroyable dans les vestiaires dès qu'il entre. C'est vrai qu'il connaissait du monde dans le vestiaire de la Juve, évidemment. Et d'ailleurs, pas que dans le vestiaire, hein, puisqu'il a connu le club, les dirigeants, puisqu'il y a joué il n'y a pas très longtemps quand même. Mais même les joueurs qui ne le connaissent pas, et même les plus grands joueurs qui ne le connaissent pas, Andrea Pirlo, c'est un mythe, c'est une légende. Ça a été le meilleur milieu de terrain d'Europe pendant près d'une décennie avec les Espagnols du Barça. Voilà, il fait partie d'une caste de joueurs très particulière. Et c'est vrai qu'on compare beaucoup cette première expérience sur un banc à celle de Zidane avec le Real, même si c'est différent, puisque Zidane avait quand même un petit peu plus d'expérience, finalement. Mais ça participe de ce niveau-là, c'est-à-dire le nouvel entraîneur qui est plus qu'un entraîneur, qui est une légende du jeu et que forcément Ronaldo reconnaît comme un des siens, ce que disait très bien Roberto. Il fait partie de cette caste-là. Et du coup, il a forcément le respect de ces joueurs-là.
Alors, il ne devient pas tout à fait nulle part au plan du métier d'entraîneur, parce qu'il il vient quand même de boucler, là, la mi-septembre, une année donc, de formation pour passer ses diplômes. Et donc, il a fait une année à Coverciano, où c'est vraiment très, très poussé au plan tactique. Et d'ailleurs, quand il a soutenu sa thèse, c'est Renzo Olivieri, le président de l'association des joueurs, qui était face à lui et qui en est sorti émerveillé.
Vous l'avez dit, les dirigeants de la Juve se préparaient à se séparer de Maurizio Sarri avant l'élimination en C1. Plusieurs pistes avaient été envisagées. Zidane et Guardiola, pour commencer, deux vœux inaccessibles. Roberto, je reprends tes mots dans le France Foot du 15 septembre dernier. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment André Agnelli, progressivement, en est venu à choisir en fait son tout nouvel entraîneur des U23?
Progressivement, je ne sais pas, parce que tout s'est fait très vite. Mais en tout cas, ça ressemble autant un choix économique qu'un choix technique, en fait. Les pistes Guardiola et Zidane étaient inaccessibles. Roberto l'avait dit, l'avait écrit. Et les autres pistes étaient plutôt compliquées. Voilà, il s'intéressait aussi à Simone Inzaghi, il s'intéressait à Mauricio Pochettino, pourquoi pas un retour de Massimiliano Allegri. Ça ne faisait pas l'unanimité. Voilà, tout s'est fait très rapidement, il fallait prendre une décision très rapide. Et Andrea Pirlo, bon, il ne demandait pas un énorme salaire. Il était là, il l'avait sous la main. Pourquoi pas? Je pense qu'ils se sont dit pourquoi pas. La Juve a toujours quelque chose à perdre. Mais avec Pirlo, je ne sais pas, il y a toute une aura, il y a toute une ambiance spéciale qui se crée autour de lui, qui fait qu'on peut se dire qu'on y va.
Qu'est-ce qu'il représente Pirlo à la Juve particulièrement, au sein du club?
Il représente en fait cet espoir d'un football offensif, parce que c'est en fait la Juve n'a pas de crise de résultats. Elle vient de boucler son 9e Scudetto. C'est la seule équipe italienne qui, en Ligue des Champions, arrive à être concurrentielle. Elle a quand même fait deux finales ces dernières années. En fait, c'est un peu démontrer que la Juve peut gagner en jouant bien. Et voilà, c'est ça aussi, le pari Pirlo. Parce que sur les entraîneurs qui ont été cités, en effet, il y a Zidane qui est très lié à la Juve. Guardiola, ça dépendait aussi des histoires avec l'UEFA et des sanctions. Après, les autres, en effet, n'étaient pas satisfaisants. Donc là, c'était plutôt se lancer ce défi de bien jouer. Parce que la Juve a souvent été critiquée pour, gagner, mais sans la manière.
Après, Pirlo, il maîtrise l'univers Juventus. Il colle au style Juventus, c'est-à-dire la classe, on va dire. Mais il ne représente pas la Juventus, Pirlo. Pirlo, oui, il a parlé 10 ans à...
Exactement, ça a été l'homme des Rossoneri avant d'être celui de la vieille dame.
Voilà, enfin, il ne faut pas rester sur l'image de Pirlo des années 2010. Pirlo, il ne représente pas la Juventus.
Et lui, intrinsèquement, il a quel rapport au club? Il a saisi l'opportunité ou c'est...
Lui, il avait signé pour entraîner l'équipe qui joue en 3e division, les U23. Donc de toute façon, il était, lui... Lui voulait apprendre, se lancer, on va dire, par la petite porte, même si c'est très compliqué d'entraîner en série C. Mais voilà, ça, c'est une opportunité extraordinaire. Avec, je ne me fais pas trop de mourons pour le Scudetto, parce qu'avec l'effectif qu'a la Juve, elle part quand même avec quelques longueurs d'avance. Mais ça va être la Coupe d'Europe, le vrai challenge.
Ouais, alors un mot sur l'effectif, justement. Cet été, la direction sportive de la Juve a voulu le rajeunir. Donc les trentenaires Pjanic, Higuain, Matuidi notamment sont partis. Tandis que le milieu américain Winston McKennie, 22 ans, est arrivé en provenance de Schalke. Et la Juve a aussi récupéré le Suédois Dejan Kulusevski, 20 ans tout juste, qui était en prêt à Parme. Dans quelle mesure Pirlo a pesé sur la réorientation de l'effectif? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Ou est-ce que tout était fait et décidé avant qu'il arrive?
Kulusevski, c'était fait depuis le mercato d'hiver dernier. Donc ça, on peut ne plus en parler. Mais par contre, Morata, c'est son choix. Et surtout, McKennie, c'est son choix. Dès qu'il est arrivé, c'est un des premiers noms qu'il a demandé et qu'il a obtenu. Donc déjà, on peut apercevoir son poids dans les décisions qui ont été prises cet été, notamment au niveau des transferts, par ces quelques choix-là de la direction. Voilà, on l'a appuyé. Il a demandé Morata, il l'a eu. Il a voulu McKennie, il l'a eu. Voilà, Pirlo a déjà posé sa patte et a montré un petit peu le poids qu'il pouvait avoir au sein des décisions du club.
Et puis après, il y a Federico Chiesa qui a été pris en toute fin de mercato. Bon, Chiesa, c'est prendre un très bon joueur, mais c'est aussi priver la concurrence italienne d'un très gros renfort. Ça, il ne faut pas se le cacher. La Juve peut se permettre d'acheter un joueur, et de pas forcément lui assurer d'être titulaire à tous les matchs. Parce que là aussi, il va y avoir beaucoup de mouvements et au niveau des systèmes de jeu, ça va être assez intéressant.
Alors justement, quand il est arrivé cet été, Pirlo s'est montré très clair. Mon équipe doit être patronne du jeu, toujours en position conquérante. Mais lisant, l'Italien a une idée déjà très précise de ce qu'il veut mettre en place sur le terrain.
Oui, oui, c'est un entraîneur moderne, comme on dit, hein, de ceux qui veulent attaquer en nombre, puisque c'est le football qui gagne aujourd'hui, on le voit avec Liverpool notamment. Après, sur les premiers matchs, pour l'instant, c'est difficile de le juger. On sait que voilà, il veut avoir la possession du ballon, il veut être rapidement le récupérer à la perte, mais ça, ce sont des choses que tous les entraîneurs aujourd'hui ou presque vont vous expliquer. Ce qui est difficile après, c'est de le mettre en place. Hein. On savait que la Juve avait tenter avec Sarri d'un jeu, voilà, ils avaient pris Sarri pour le beau jeu et pas seulement les résultats. Il faut maintenant gagner en jouant bien. Ça a été un échec parce que c'était un effectif à rajeunir. C'est un effectif vieillissant et il va falloir aussi qu'il compose avec les joueurs qu'il a, puisque c'est ça aussi quand on apprend le métier d'entraîneur, c'est qu'il faut qu'on s'adapte. Je pense que ça, il le sait très bien. Pour l'instant, on a vu une équipe qui avait eu du mal vraiment dans l'équilibre à Rome sur son deuxième match de championnat, qui avait été séduisant pour le premier, mais qui a été plus en difficulté contre une équipe un peu meilleure. Donc il va falloir qu'il trouve des automatismes, qu'il trouve des équilibres. Et il prend quand même, c'est un gros risque, hein, parce que la Juve, ça fait 9 ans qu'ils sont champions, et que personne n'a envie d'être l'entraîneur qui va arrêter cette série de victoires. Et qu'on le veuille ou non, ça a été un effectif qui a montré ses limites la saison dernière en Europe, hein, puisque face à Lyon, ça a été criant. Ça manquait de mouvement, ça manquait de dynamisme, ça manquait sans doute de jambes au milieu. Ils ont recruté du monde. On va voir maintenant ce que ça donne, mais il y a un chantier qui est important quand même.
De qui il s'inspire en particulier, Andrea Pirlo ?
Lui, il dit qu'il s'inspire de Conte. Alors, je pense qu'il s'inspire un peu de tout le monde, hein, pour ceux qui sont proches de lui et qui lui parlent. Il y a une influence évidente de Lippi chez tous, cette génération de champions du monde, dont une grande majorité, en tout cas une majorité, sont devenus entraîneurs et d'autres sont en passe de le devenir, hein, puisqu'on attend des Rossi sur un banc de touche de manière assez imminente. Les champions du monde 2006, ils ont eu une dérogation de la fédération italienne de passer leur diplôme d'entraîneur plus rapidement que les autres. Hein. Ils peuvent faire 2 années en une seule, c'est ce qu'a fait Pirlo la saison dernière. Du coup, ils ont tous été un petit peu tentés par la carrière. Et Lippi, c'est vrai que ça reste une des références. Après, il y a la référence Ancelotti, puisqu'au Milan, ça a été plus qu'un entraîneur pour cette génération de joueurs-là. Ancelotti, dans la gestion humaine d'un vestiaire, reste un modèle, une perfection même sur le management des dernières décennies, sur le football de haut niveau, parce que voilà, son côté « je fais des blagues », son côté débonnaire, son côté bienveillant, et tout en étant extrêmement pointilleux sur le côté tactique, Ça inspirait ses anciens joueurs. Et puis lui, Pirlo, dit que c'est Conte qui lui a donné envie d'entraîner, que c'est la manière dont Conte préparait ses matchs.
Il dit, c'est avec lui que j'ai commencé à me dire que je voulais devenir entraîneur. Ouais. C'est le meilleur que j'ai eu. Roberto ?
Oui, mais je pense que la référence à Conte vaut surtout pour, on va dire, la niaque que donne Conte, l'esprit de vestiaire, la rage, etc. Peut-être un peu moins sur la possession de balle et sur l'aspect tactique, ce qu'on a pu constater aussi à l'Inter. Voilà. Je pense que lui, au plan du jeu, ce sera un peu plus ambitieux au niveau de la possession de balle, de la création, etc.
Alors, on l'a évoqué un peu plus tôt, mais en 2018 à Coverciano, c'est l'équivalent de Clairefontaine chez nous, Pirlo a soutenu une thèse pour l'obtention de son diplôme UEFA intitulé « Le football que je voudrais ». Et il explique notamment que le rôle d'un joueur sur le terrain n'est plus une simple position, mais une fonction à part entière.
Oui, oui. Et puis, lui, il insiste, d'ailleurs, quand je parlais de Renzo Olivieri, il avait souligné qu'en fait, il avait beaucoup insisté sur, pas sur l'attaque, mais sur le rôle des défenseurs. Sur, en fait, le défenseur doit, selon lui, monter très haut, mais ça implique de la discipline, un alignement de tous les défenseurs. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans l'équipe qu'il est en train de constituer, c'est que ce ne sera pas figé. C'est que d'ailleurs, il dit « moi, je n'ai pas un schéma de jeu définitif, il peut changer en cours de match ». Et ça, il s'inspire beaucoup de Lippi là-dessus.
C'est-à-dire à trois derrière
Non, je pense qu'ici, par à trois, il restera à trois. Mais en fait, il peut bouger sur... pas être forcément trois devant, ça peut être deux plus un. Et puis après, il y a le rôle des latéraux au milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que Chiesa, ça va être intéressant, parce que c'est de savoir si Chiesa sera milieu, on va dire, assez offensif, ou s'il sera ailier. Parce que ça sous-entend de sacrifier l'autre belle recrue, Kulusevski, et je ne pense pas que Pirlo ait envie de le sacrifier.
Après, il y a toute la théorie qu'il a pu exposer lors de sa formation d'entraîneur. Aujourd'hui, bon, on manque de matchs et donc de recul pour analyser plus précisément ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il peut mettre en place. Mais en tout cas, moi, autant j'ai été enthousiaste après le match contre la Sampdoria, où vraiment on voulait...
Donc victoire 3-0 pour le premier match de la saison.
On voyait clairement où il voulait aller, comment il voulait y aller. Mais ensuite, contre la Roma, si on m'avait dit c'est Mauricio Sarri qui est sur le banc, bah, c'était pareil en fait. J'ai vraiment pas vu ce qu'il voulait faire sur le match contre la Roma, où là j'ai senti une équipe qui n'avait plus de... l'identité qu'elle avait au premier match, elle ne l'avait plus lors du second match déjà.
Un mot sur son staff maintenant. Pirlo s'est entouré d'hommes de confiance qui partagent profondément sa vision du jeu. Et notamment, son adjoint, c'est Igor Tudor. C'est un ancien défenseur de la Juve qui avait, lui, déjà entraîné en tant que numéro 1, notamment à Galatasaray. Mais Lisande, c'est lui qui a composé entièrement son staff.
Ouais, c'est lui qui a composé son staff. Et c'est vrai que c'est plutôt un point sur lequel on peut être assez optimiste sur sa réussite, parce que c'est vrai que le staff, il est extrêmement cohérent et qu'on sent qu'il a l'humilité de s'entourer d'hommes qui ont l'expérience que lui n'a pas, en tout cas en termes de management et de technique d'entraînement pur. Alors Tudor, au quotidien, aujourd'hui, il entraîne davantage la phase défensive. Vous vous souvenez qu'en Italie, c'est vraiment il y a celui qui entraîne les attaquants, celui qui entraîne les défenseurs, c'est assez marqué et on attache beaucoup d'importance à la phase défensive. Et Tudor, il est spécialisé là-dedans puisqu'il était lui-même défenseur. Mais il a été numéro un. Il a pris comme adjoint son ami presque d'enfance, Baronio, qui a lui aussi entraîné depuis plusieurs années les équipes de jeunes dans plusieurs clubs professionnels. Il a pris un analyste vidéo, Gagliardi, qui est la star en la matière en Italie, qui travaille avec la Fédération italienne, avec l'équipe nationale A depuis plus de 10 ans, puisqu'il était déjà là avec Antonio Conte, et qui a une énorme réputation en termes d'analyste vidéo. Et aussi
il s'en est inspiré pour sa thèse aussi.
Il s'en est inspiré pour sa thèse. Il a eu le coup de foudre. Enfin, le coup de foudre, c'est peut-être un mot fort, mais il l'a rencontré quand il était international italien à Coverciano et il s'est dit, mais lui, il a une vision vraiment hyper intéressante. Et il amène des concepts et des approches auxquelles Pirlo n'avait pas pensé quand il était joueur. Et du coup, il s'est dit que c'était l'avenir de peut-être aussi de le mettre vraiment dans un staff. C'est-à-dire qu'il est adjoint, il n'est pas quelque part dans le staff et vous allez le voir les veilles de match pour qu'il vous fasse la séance vidéo. C'est vraiment, il est au quotidien avec lui. Et il lui conseille sur plein d'aspects techniques sur chaque joueur, en plus des adversaires évidemment. Et ça, c'est assez novateur et ça donne envie de voir ce que ça va donner vraiment. Il a en tout cas un staff. On se dit qu'il peut aller assez loin avec ce staff-là.
En tout cas, chez les joueurs, le staff fait l'unanimité. Par exemple, Adrien Rabiot soulignait dans The Athletic, le staff est plus jeune que celui de Sarri et surtout plus proche de ce que la Juve représente.
En tout cas, Igor Tudor, par exemple, est fondamental. C'est un ancien du club, mais au-delà de ça, il y a eu de gros problèmes défensifs la saison passée. Et c'est pas dans les habitudes de la Juve d'avoir des gros soucis défensifs comme ça. Voilà.
43 buts
encaissés, alors qu'ils n'en avaient pas pris plus de 30 lors des 8 Scudetti précédents. Ça ne pouvait pas rester ainsi. Donc forcément, il fallait un renfort déjà à ce niveau-là. Après, au niveau de la proximité, Igor Tudor... Et quelqu'un, bon ben voilà, il parle couramment l'italien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il est proche des joueurs, même si je n'ai pas compris pourquoi il se séparait d'Andrea Barzagli, par exemple, parce que ça collait parfaitement, on va dire, avec l'arrivée de Pirlo, les monstres sacrés qui sont encore là, Buffon, Bonucci, Chiellini, ça aurait été dans la continuité de cette idée-là. Mais en tout cas, Igor Tudor a sa place dans ce staff, il s'est très bien intégré et aujourd'hui, je pense qu'il peut devenir très vite incontournable.
Oui, et puis il a aussi l'avantage d'avoir entraîné l'Udinese il y a quelques mois. Donc il a en plus cette expérience du banc en Serie A, outre que de cette expérience, on va dire, du terrain.
Alors, on a lancé un appel à questions sur Instagram et on a eu beaucoup de questions, effectivement, sur les deux premiers matchs de la Juve et notamment sur, l'équipe alignée par Andrea Pirlo. Est-ce qu'il a déjà trouvé un petit peu son équipe type, même s'il va y avoir des changements, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit encore en rodage pendant plusieurs matchs, peut-être jusqu'à la Ligue des Champions ?
Je pense qu'il est encore en rodage. Je ne pense pas que l'équipe qu'il a alignée la première journée soit son équipe type. Bon, il manquait plusieurs joueurs, il manquait déjà Dybala. Ensuite, Arthur, qui n'est pas un choix de Pirlo pour le coup, parce qu'il a été recruté avant qu'il arrive, n'était peut-être pas encore au point physiquement. Bettencourt n'était pas titulaire. Il va être amené à beaucoup changer, je pense, parce qu'il a envie de beaucoup de dynamisme dans son jeu. Il veut de l'agressivité dans la récupération. Et ça demande que les joueurs soient au point physiquement. Donc je pense qu'il va assez souvent, pas tourner, pas faire beaucoup de rotations, mais ponctuellement, il va changer pas mal de choses au milieu de terrain, je pense.
Il y a un point très important aussi dans le système qui est en train de mettre en place Pirlo, c'est les deux milieux qu'on va appeler récupérateurs. Parce que là, il va falloir trouver un équilibre très précis entre, ils sont quatre à tourner, hein, Bentancur, McKenny, Rabiot et Arthur. Et là, il va falloir être très vigilant parce que pour avoir une équipe très offensive, il va falloir que plus l'équipe sera offensive devant, plus il faudra que les deux récupérateurs fassent énormément de travail. Et moi, je mettrai une pièce quand même devant sur Kulusevski, qui a l'avantage sur ses autres camarades de savoir tout faire, de ratisser les ballons, de vraiment tout faire. Il peut jouer milieu récupérateur, organisateur, 9,5, ailier, il est bon à tous les postes, et en plus, il est très jeune. Et ça, je pense qu'Andrea Pirlo est vraiment très attaché à ça, pour son vécu personnel. Et je rappellerai que dans son staff, il y a Roberto Baronio, qui était un bijou de joueur, mais qui a été sacrifié, comme beaucoup de joueurs de leur génération, dans les grands clubs, parce qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes joueurs italiens. Voilà. Donc il y a aussi ce petit challenge personnel, je pense, de montrer que c'est le talent qui doit primer, et pas le nom et le salaire.
Et tu parlais tout à l'heure de Chiesa, donc, qui est arrivé en toute fin de mercato. On pourrait l'imaginer en vrai dans le 3-4-1-2 qui a, par exemple, débuté face à la Sampdoria, avec des joueurs de couloir qui assument un rôle de piston. Pourquoi pas Chiesa dans ce rôle de piston à droite ? Et on a parlé, ils n'ont pas pu recruter de joueurs pour le piston côté gauche. Donc il y a Alexandro, mais qui est actuellement blessé. On pourrait imaginer Federico Bernardeschi être utilisé parfois dans ce rôle-là de l'autre côté à gauche, donc ce qui donnerait un système et une équipe très offensive.
On regardera ça avec attention. Le prochain match de la Juve, c'est samedi 17 octobre à Crotone. Et puis, la reprise de la Ligue des Champions approche. Évidemment, les Turinois iront défier le Dynamo Kiev pour commencer, avant de recevoir le FC Barcelone, un match que tout le monde attend, je pense. Merci à tous les trois, Mélisande Gomez, Roberto Notariani et Thomas Simon. Merci à Roland Richard pour la préparation et la réalisation de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, à vous qui nous écoutez. La semaine prochaine, on relancera un appel à questions sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur les plateformes de podcast et à nous laisser des commentaires. À très vite.